Bien, eh bien bonjour. Surtout bonjour à vous, madame, qui est venue pour la première fois. Alors, je rappelle où nous en sommes. J'ai commencé par distinguer connaissance par oui dire et connaissance rationnelle. Et nous sommes aperçus que cette distinction simple et élémentaire avait des conséquences considérables, puisqu'elle impliquait que, par exemple, connaître les résultats d'un travail scientifique sans avoir fait tout le chemin qui y conduit, c'était avoir une connaissance par oui dire, mais pas une connaissance scientifique. De sorte que se pose un problème ici, d'une part, dans l'enseignement en général, est-ce que ça a un sens d'inculquer à des élèves ou des étudiants des connaissances qu'ils ne comprennent pas réellement puisqu'ils ne connaissent pas le chemin qui y conduit? Et un problème qui est celui que nous rencontrons chacun de nous, dans la mesure où ne connaître les résultats des sciences que par oui dire, ça veut dire croire exclusivement en faisant confiance. L'enjeu, c'est la liberté de l'esprit. Est-ce que ça a un sens de vivre dans un monde dont tous les savoirs sont hors de notre portée? Et d'autre part, comme ces connaissances scientifiques mettent en jeu notre rapport au monde, comment allons-nous nous orienter dans le monde si tout ce dont nous disposons, ce sont des savoirs qui ne sont pas des savoirs, des connaissances tronquées, coupées de ce qui fait leur sens? Et donc, pour répondre à cette interrogation, c'est-à-dire aussi à l'objection qu'on fait toujours, mais ce n'est pas possible d'avoir une connaissance qui soit vraiment par oui dire, puisqu'il y a tellement de choses à savoir qu'on est bien forcé de faire confiance. Et pour montrer l'enjeu du problème, j'ai décidé de prendre un exemple dont ceux qui me connaissent savent qu'il m'obsède, qui est celui de cette connaissance que nous avons tous, à savoir que la Terre tourne autour du Soleil. Et pour voir qu'en effet, être incapable d'en rendre raison, c'est à coup sûr manquer la signification de cette vérité scientifique en un sens élémentaire, j'ai donc décidé de développer cet exemple pour montrer, par exemple, la transformation du rapport de l'homme au monde qui résulte de la nouvelle astronomie, c'est-à-dire de celle qui résulte de la révolution copernicienne et galiléenne. Alors, nous avons déjà vu une chose sur laquelle je reviendrai, c'est que cette astronomie abolit la différence du céleste et du terrestre. Ça a beaucoup ennuyé l'Église. Bon. Ça veut dire que le ciel perd son caractère divin. Et que céleste, au sens de divin, ça n'a plus qu'un sens métaphorique, poétique pour nous. Alors que, avant Copernic, ça avait un sens physique, cosmologique. Et donc, les astres cessent d'être des divinités pour n'être plus que des feux ou des terres, des pierres. C'est-à-dire que cette nouvelle physique a paru donner raison aux matérialistes de l'Antiquité, dont on condamnait l'impiété parce qu'il méprisait la divinité du ciel. Nous avons vu d'autre part, et j'y reviendrai aussi, sur les deux, que nous passions, en allant de l'astronomie pré-copernicienne à l'astronomie qui suit cette révolution, d'une représentation du monde à une autre. Dans la première, le monde est sphérique, il est clos. Et dans la seconde, c'est un univers infini. Et alors, communément, comme fait Auguste Comte, On oppose l'infinité de l'univers à la multiplicité des mondes qui le composent. Il y a plusieurs mondes. Alors qu'il n'y a qu'un univers, comme le mot l'indique. Mais ça veut dire, pour reprendre le titre d'un célèbre ouvrage d'Alexandre Coiré, qu'on passe de l'univers du monde clos à l'univers infini, c'est-à-dire à un monde où il n'y a plus de centre. Et où donc, il semble d'abord, pour nous, aujourd'hui, qu'il n'y ait plus, contrairement à ce qui se passe dans l'univers clos dont la Terre est le centre, de principe d'orientation. Et pour comprendre ce bouleversement, donc, je dis, et je vais essayer de le montrer, qu'il faut suivre le processus historique qu'il a permis, c'est-à-dire voir comment il s'est opéré. C'est-à-dire, c'est de comprendre ce qui a amené les astronomes à passer d'une représentation du monde dont la Terre était le centre à une autre représentation du monde. Et pour comprendre ça, je suis forcé de commencer par ce qu'on appelle de la cosmographie, c'est-à-dire la description de ce qu'on voit quand on regarde le ciel. C'est ça que ça veut dire, cosmographie. Je dis bien description et non explication. C'est la description du mouvement des astres. La cosmographie, c'est la partie purement descriptive de l'astronomie. Elle décrit et dépeint le ciel à partir d'une sphère et de cercles. C'est une description géométrique. Donc, deux choses. D'une part, ce qu'on voit, mais d'autre part, pour que ce soit défini, la géométrie. D'une part, l'œil, d'autre part, l'entendement. Un mot célèbre d'Auguste Comte dit qu'un peuple d'aveugles n'aurait pas l'astronomie. Et donc, il faut regarder le ciel. Et ce soir, ça risque de poser problème. Non pas seulement à cause des nuages, mais à cause de la pollution, je veux dire essentiellement la pollution lumineuse. Nous sommes dans des villes et même dans des campagnes où l'éclairage est tellement puissant qu'on ne voit plus le ciel. Et s'il est vrai que l'humanité ne peut s'orienter que en regardant le ciel, c'est extrêmement grave. C'est pourquoi Václav Havel, à Prague, quand il était président de la République, a imposé que les réverbères aient une puissance moins grande, soient orientés vers le bas, de façon à ce que les Pragois puissent continuer à voir les étoiles. Il y a quelquefois des politiques qui ne sont pas complètement dépourvues de spiritualité. Bien. Mais enfin, ce sont des accidents. Donc, premièrement, il faut regarder le ciel. Deuxièmement, alors, notre collègue instituteur, je lui ai donné le virus peut-être, ou il l'avait peut-être déjà avant, de l'astronomie, et il montre le ciel à ses élèves, même en banlieue parisienne. Car c'est possible quand même si on y tient. Mais c'est ce que plus personne ne fait. Si vous demandez à quelqu'un d'entre vous qu'est-ce qu'on voit quand on regarde le ciel, c'est la panique. Ils ne savent pas qu'on voit des points lumineux qui sont fixes les uns par rapport aux autres et qui tournent en 24 heures selon un cercle. Et que ce cercle lui-même tourne autour d'un axe autour duquel il se trouve qu'il y a une étoile, sur lequel il se trouve qu'il y a une étoile, que pour cette raison, on appelle l'étoile polaire. Ils ne savent pas que ça, c'est de la description. Que polaire, pour l'étoile, ça veut dire quand on regarde, on voit que tout tourne ensemble, puis que ça tourne autour d'un axe qui est un pôle. Le pôle, c'est pour nous. J'entends. Je parle pour nous. Je ne suppose pas qu'on prend l'avion, qu'on se balade du côté de Madagascar. Non, non. On est dans l'hémisphère, dans ce qu'on appellera plus tard, au point où j'en suis, je n'ai même pas le droit de le dire, l'hémisphère nord. Bien. Mais, alors, Bien entendu, ce que je suis en train de vous dire, que quand on regarde le ciel, les étoiles sont fixes, les unes par rapport aux autres, que cela constitue ce qu'on appelle la sphère des fixes, qu'elle tourne en 24 heures, un tour complet, autour d'un axe qui est la planète, ça n'est même pas au programme, ça. Ce n'est pas inscrit comme devant être appris et montré. Et moi, je ne l'ai pas appris à l'école primaire, je l'ai appris chez moi. En plus, comme mes parents allaient en Corse et en Grèce, là, ça avait des cieux, puis il n'y avait pas encore de pollution lumineuse. Puisque les villages corses, dans les années 50-60, avaient encore l'électricité qu'ils avaient démontée à la Libération dans les Alpes-Maritimes pour la transporter dans ce département sous-développé, donc on ne voyait rien. Ce qui était formidable, parce que là, on avait des cieux comme les anciens. Bon. Donc, ce que j'ai dit pour décrire, il y a une sphère qui tourne en 24 heures sur elle-même, selon un axe qui passe par un pôle, c'est de la géométrie. C'est pas simplement l'œil qui peut le dire. Et en effet, si vous regardez, vous ne voyez pas d'abord ça, vous voyez d'abord un très grand nombre de points lumineux, et il est très difficile de s'y repérer et de comprendre comment ça se meut et quel en est le mouvement. Pour ça, il faut suivre le mouvement des astres toute une nuit, puis la nuit suivante et sur une longue période. Et par conséquent, il faut être capable de noter ce qu'on voit. Il faut être capable de le noter pour voir si le lendemain on voit la même chose ou si 10 ans après on voit la même chose. Et cela suppose bien cette représentation du ciel comme d'une sphère avec les méridiens, avec les parallèles et les angles. Et à ce moment-là, on peut définir la position des astres sur la sphère et la noter. Mais ça va supposer des appareils pour mesurer les angles, etc. Et tout un travail de géométrie. Cette représentation géométrique du ciel, elle a été mise en œuvre plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Les Grecs ne sont pas les premiers. Ce qui fait qu'ils avaient eux-mêmes des observations anciennes. Ils ont pu voir le déplacement des astres sur plusieurs centaines d'années. Bien. Et sur cette sphère imaginaire qu'on appelle la sphère des fixes, puisqu'elle est cloutée de points lumineux fixes les uns par rapport aux autres, qui tournent ensemble en 24 heures, donc, on définit la position des astres, on dessine aussi des constellations, c'est-à-dire des groupements d'astres qui forment des figures permettant de se repérer. Et tout ça, c'est un long travail séculaire et millénaire. Celui qui cherche donc à suivre les mouvements des astres et à repérer le retour des astres prend donc des mesures. Et c'est à force de prendre des mesures qu'il peut prendre conscience de la périodicité du mouvement des astres. Il y en a qui reviennent à la même place. Et c'est ce qui permet aussi d'établir ce qu'on appelle un calendrier. Car il est assez difficile d'établir un calendrier, par exemple, à partir des crues du Rhône, ou de la fonte des neiges, ou l'apparition des fleurs sur les oliviers ou sur les amandiers. On n'arrive pas à avoir un calendrier. Mais avec le mouvement des astres et sa régularité, c'est possible. Et donc, au commencement était la cosmographie, c'est-à-dire l'œil et l'esprit, qui supposent les yeux et la géométrie. Et depuis la plus haute antiquité, depuis les Chaldéens, les observations des anciens, des Grecs, qui nous sont restés, ont permis, et il y a aussi toutes celles des Arabes après qui ont été notées, ont permis donc la mise en œuvre de calendriers. Mais quand je dis qui nous sont restés, ça veut dire que par exemple, si vous regardez la Grande Ourse, vous avez 4 étoiles et une queue qui se balade comme ça, je ne sais plus combien il y en a. Et si vous poursuivez là, vous avez ici une étoile qui brille beaucoup, qui s'appelle Arcturus. Eh bien, la distance entre la dernière étoile de la Grande Ourse et Arcturus s'est accru depuis l'Antiquité. Arcturus s'éloigne de l'Ourse. Il y avait une solution qui consiste à dire les Chaldéens et les Grecs se sont trompés dans la mesure. Il y a une autre qui consiste à concevoir à partir de là le déplacement de notre galaxie dans le ciel. Et c'est celle-là qui a été adoptée. Les mesures des anciens sont bonnes. Notre astronomie est encore tributaire, d'une certaine manière, des mesures des anciens. Il y a une continuité de l'histoire de l'astronomie, je vous en prie. Donc, je me résume. Quand on regarde le ciel, on imagine une voûte, c'est-à-dire une demi-sphère, et ce travail de géomètre permet de définir la position des astres dans ce qu'on appelle la sphère des fixes, tous ces astres étant fixes les uns par rapport aux autres. Je l'ai dit les dernières fois, ce qui fera en effet d'abord le berger ou le marin qui regarde le ciel, parce que ça permet aussi de se déplacer la nuit en bateau, ce qui les frappe, c'est l'ordre, c'est la régularité. Autrement dit, c'est le contraire de ce qui se passe sur Terre, où c'est le tohu-bohu, où on ne peut pas prévoir le temps qu'il fait. Les coups de vent, les sécheresses. Mais grâce à l'horloge céleste, l'homme peut mesurer le temps. Toute la vie humaine est réglée par le ciel. Voilà pourquoi je m'y intéresse à l'astronomie. C'est pour comprendre l'humanité, bien sûr. Et ce n'est pas simplement dire que la vie animale, qui par instinct suit le rythme des saisons, est réglée par le ciel. C'est pour dire que la pensée et la volonté des hommes de mesurer le temps permet la mise en œuvre de calendriers qui rythment la vie sociale, la vie politique. Non pas simplement l'agriculture, mais aussi les fêtes. Sans le ciel, pas de fête. Seulement, c'est un point qu'il faudrait évidemment développer pour bien comprendre comment l'orientation de l'homme dans sa vie d'homme, comme agriculteur, mais aussi comme citoyen, suppose la régularité des cieux, repose sur la régularité des cieux. Imaginez que ça se mette un jour à tourner dans l'autre sens, imaginez un monde sans le ciel et sa régularité. Il n'y a plus de pensée et de rythme possible pour l'homme. Bien, mais je laisse cette épouvantable histoire de côté. Cette régularité, cette stabilité du mouvement céleste est donc notre régulateur premier. C'est ce qui nous stabilise. Vous comprenez pourquoi, à partir de là, par exemple, quelque chose comme une comète. Avant Newton, ça provoquait la panique. Parce qu'on se demandait bien ce qui arrivait. Brusquement, il y avait un truc qui passait là pendant quelques jours ou quelques semaines, mais qui était complètement en dehors du mouvement normal. Donc on se demandait bien quelle catastrophe allait se produire. C'est avec Newton seulement qu'on a pu comprendre la périodicité du mouvement des comètes qui ont cessé alors d'apparaître comme des astres extraordinaires. Ils sont rentrés dans l'ordre. Mais cette réaction de panique à propos des comètes, elles étaient en un sens fondées. C'est comme si brusquement ce truc se mettait à monter et n'obéissait plus à la chute des corps. On commencerait à s'inquiéter. On penserait, professeur de philosophie, à un truc. Donc, je continue. Mais ce que je viens de dire ne doit pas laisser oublier que c'est très difficile d'établir vraiment la périodicité des astres. Autrement dit, il n'est pas facile d'accorder entre elles les périodicités des différents astres. Parce que j'ai parlé des étoiles, qui sont fixes les unes par rapport aux autres, de tous ces points lumineux qui tournent ensemble en 24 heures. Mais il y a quand même le Soleil, qui a une curieuse façon de se promener dans le ciel, Et puis à la Lune, alors là, c'est encore autre chose. Et si on fait un calendrier en comptant les jours, c'est-à-dire le décompte d'un jour et d'une nuit, en considérant qu'ils sont égaux, en considérant que, parce que, comment vous le prouvez ? Bien. Et si d'autre part, vous établissez un calendrier solaire, l'année solaire ne fait pas un nombre exact de jours. Il y a un petit décalage. Donc si vous ne faites pas attention, au bout d'un moment, enfin quelques siècles, vous fêtez Noël le 15 août. Et il faut refaire le calendrier. C'est ce qui s'est passé plusieurs fois dans l'histoire. Bien. D'autre part, vous pouvez faire un calendrier lunaire, c'est-à-dire prendre comme périodicité de référence pour mesurer le temps la nouvelle lune ou la pleine lune. Mais ça ne colle pas avec le calendrier solaire. C'est pourquoi nous qui sommes sur le calendrier solaire, eh bien, nous voyons le ramadan se déplacer, parce que lui, il est sur le calendrier lunaire. C'est pour ça aussi que, comme Pâques, c'est un peu lié au calendrier lunaire, ça se balade. Bon, enfin, on a corrigé ça. Donc, c'est pas du tout évident. Ça a supposé des siècles et des siècles de réflexion et de travail. Et ce qu'il faut noter, c'est que quand même, c'était déjà au point, d'une certaine manière, du temps des Grecs et des Romains, et même des Chaldéens, qui ont décidé que l'heure se divise en 60, les jours en 24 heures, etc. Ça, c'est bien avant les Grecs. Donc, on a établi des calendriers. Reste maintenant, et c'est maintenant que nous allons faire un bond dans la réflexion, qu'il y a quelque chose qui est apparu aux astronomes dès la plus haute antiquité. C'est que parmi les astres, il y en a qui ont un mouvement tout à fait bizarre, c'est-à-dire qui n'ont pas un mouvement régulier, mais qui sont des astres errants. Errants. En grec, erré, ça se dit planaomai, et des astres errants, ça se dit en grec des planètes. Planète, ça veut dire astre baladeur. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, quand vous avez une constellation, supposez qu'elle forme un carré, les quatre étoiles de mon carré sont toujours dans la même position, les unes par rapport aux autres. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu que, dans une constellation qui est un carré, il y avait par exemple, en haut et à droite du carré, un astre qui paraissait comme les autres. Donc je dessine en haut et à droite du carré un astre qui est comme les autres. Et puis, je m'aperçois deux mois après qu'il n'est plus au même endroit que les autres. Qu'il est là. Et sur l'année, ou sur 10 ans, ou sur 20 ans, je le vois, qu'il se déplace. Il n'est pas fixe comme les autres. Il se balade dans les constellations. Et là, il fait un mouvement d'aller-retour irrégulier. Il va dans un sens, il fait une boucle, il revient dans l'autre sens, et ainsi de suite. Et donc, tous les astronomes anciens ont cherché à trouver quelle régularité permettait de prévoir les balades de ces astres qu'ils appelaient, parce qu'ils sont baladeurs, des planètes. Et ça a été très difficile. Parce que, d'abord, ça scandalisait tout le monde. Cette introduction d'un désordre dans l'univers. Donc, il s'agissait de savoir comment le réduire à l'ordre. Alors, c'est par exemple pour nous assez visible, pour une planète comme Vénus, que tantôt on voit suivre le soleil au moment de son coucher, tantôt au contraire, quand on la voit le précéder au moment du lever. Vous vous rendez compte déjà pour pouvoir établir que c'est le même astre. Tout le travail qu'il a fallu. Tout ce que ça suppose de connaissances. Et pour l'établir avant la révolution copernicienne, je suis incapable de vous dire comment c'est possible. Donc, comment retrouver, à partir de ce désordre apparent, visible, du mouvement des planètes, un ordre qui permette d'en rendre raison, c'est-à-dire de les ramener à l'ordre. C'est ça le problème fondamental ou un des problèmes fondamentaux de l'astronomie qui a donné lieu ensuite, dont la solution a imposé la révolution copernicienne. Donc, si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que c'est qu'une planète, qu'est-ce qu'il va vous répondre ? À tous les coups, un astre mort, tous les coups, qui réfléchit la lumière du Soleil. Tous les coups, bien sûr. Et qui tourne aussi autour du Soleil, comme la Terre, à tous les coups. Et si vous lui demandez, mais comment on peut repérer une planète et la distinguer des autres ? Ah, il va vous répondre, ah, mais c'est pas le même éclat, etc. Ben, tu vous le mettez dehors dans le ciel, vous allez voir un petit peu si l'éclat apparent des planètes, ça va lui permettre de les retrouver. On part d'une connaissance qui suppose tout un cheminement pour arriver, en effet, à dire les planètes, c'est pas comme les étoiles, c'est des astres morts qui renvoient la lumière, c'est pas des feux qui la produisent. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Personne ne sait d'où ça vient. Puis alors, si en plus le type est ultra savant, il sait qu'il y a 10 ans, on a revu la définition des planètes. Parce qu'il y a tellement de cailloux plus ou moins gros qui se baladent autour de la Terre ou autour du Soleil que, ma foi, au lieu d'en avoir 7 ou 8, on en peut maintenant en avoir. Donc, il faut revoir toutes ces définitions. Le type vous dira quand même, les définitions des anciens, c'est vraiment sans intérêt. Mais tout ce discours est vide de sens. Parce qu'on ne sait pas du tout, quand on regarde le ciel, à quoi il correspond. Donc partons de ce qu'on voit. La solution pour ramener à l'ordre le mouvement des planètes qui a été adopté sous l'Antiquité, d'abord par Hipparque, puis par Ptolémée, est une solution admirable et fort complexe qui consiste à dire ceci. Donc, il y a un centre, c'est la Terre, c'est l'observateur. Considérons autour de ce centre un cercle qui tourne. C'est de la géométrie pure. Il y a donc un cercle qui tourne autour de ce centre. Et sur ce cercle, on trace un point qui est le centre d'un autre cercle, qu'on appelle un épicycle. Je vais faire le croquis. Donc, je dessine un cercle sur lequel il y a un point, sur lequel il y a un cercle, et sur le cercle que j'ai dessiné, qui tourne en même temps que l'autre, mais plus lentement ou plus vite, ça dépend des fois, il y a un point qui symbolise cette fois-ci la planète. Et c'est la combinaison, ça c'est au milieu, c'est l'œil, c'est le centre du monde, c'est la combinaison de ces mouvements, quand on sait calculer la vitesse relative des deux cercles, qui permet de retrouver le mouvement apparent de la planète. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les cercles que je viens de tracer et la combinaison de leurs mouvements permet de reconstituer géométriquement, comme dans un planétarium avec des engrenages, etc., le mouvement visible des planètes, les cercles que j'ai tracés ne sont pas des trajectoires. Attention. En langage contemporain, on dira que ce sont des modèles qui permettent de reproduire ou de représenter le mouvement visible des planètes. Et c'est pour ça que j'ai mis dans le papier que j'ai distribué, vous l'avez, ce texte de Simplicius, qui dit ceci: Platon admet en principe que les corps célestes se meuvent d'un mouvement circulaire, uniforme et constamment régulier. Donc le point de départ, c'est la loi absolue de la régularité, dont le cercle est la plus belle expression. Il pose alors aux mathématiciens ce problème: quels sont les mouvements circulaires uniformes et parfaitement réguliers qu'il convient de prendre pour hypothèse afin que l'on puisse sauver les apparences présentées par les planètes. Sozein ta phenomena. sauver les phénomènes, on pourrait traduire, mais phénomène est pris au sens de ce qui apparaît, ce qu'on voit. Et donc, comme il s'agit, dans une cosmologie comme celle de Platon, de rendre compte de l'ordonnance divine du ciel, il faut parvenir à comprendre que les planètes n'introduisent pas du désordre dans le monde. Et donc, montrer que le désordre apparent de leur mouvement peut se réduire à une combinaison de mouvements circulaires uniformes. Et que la finalité de cette astrologie, de cette astronomie, pardon, est morale. Il s'agit de faire en sorte que l'homme ne trouve pas dans l'ordre, dans le monde, un désordre qui pourrait perturber la régularité de sa propre vie, puisque le ciel est le modèle sur lequel il peut régler lui-même son âme et sa cité. Mais ça veut bien dire ici que la géométrie n'est pas ce qui prétend expliquer le mouvement des planètes en déterminant quelle est leur trajectoire. Ce n'est pas le problème. Le problème est de savoir reproduire géométriquement cette trajectoire visible pour pouvoir la prévoir. C'est tout. Et dans une cosmologie comme celle de Platon, s'assurer que le ciel est bien ordonné de part en part. Il faudrait prendre un peu de temps sur cette cosmologie platonicienne, mais voyez que la finalité de la géométrie, au fond, dans cette affaire platonicienne, elle n'est pas proprement ce qu'on appellerait nous scientifiques, elle est morale et politique. La géométrie n'a pas ici simplement une fonction descriptive ou pratique, prévoir, elle a une fonction morale. Il s'agit, comme toujours chez les Grecs, de concevoir une proportion, un équilibre. C'est la même géométrie que celle qui préside à la construction du Parthénon ou à l'élaboration des statues. C'est la même unité d'esprit qui est présente ici partout. Que se passe-t-il maintenant avec Copernic? Que se passe-t-il avec Copernic? J'espère qu'il y a du suspense. Eh bien, pour comprendre comment on en est venu à dire que la Terre se meut autour du Soleil, qu'elle est elle-même une planète, j'ai décidé de passer par une petite explication qui était proposée par Alain dans un chapitre de son Platon, chapitre 5, qui traite de la caverne. Et c'est une histoire très compliquée, puisque prendre cet exemple pour expliquer Platon, c'est complètement absurde sur le plan historique. Puisque justement,